Décryptage. Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous. Un sommet virtuel pour tenter de maîtriser les tensions entre la Chine et les États-Unis. Les présidents des deux grandes puissances se sont longuement entretenus la nuit dernière. Joe Biden et Xi Jinping sont revenus sur les contentieux qui opposent leurs deux pays. La question de Taïwan, les droits de l'homme et la guerre commerciale. Les deux dirigeants ont d'ailleurs campé sur leur position. Mais ils ont aussi rappelé la nécessité d'établir des garde-fous pour éviter que leurs nombreux différends ne dégénèrent en conflit. C'est donc l'occasion de faire un point ce soir sur la rivalité économique et commerciale entre Pékin et Washington. Où en est-elle? Les lignes ont-elles bougé depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche et depuis l'accord commercial négocié par Donald Trump avec la Chine en 2020? On en parle pendant 20 minutes avec notre invité. Bonsoir Camille Brugier.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheuse Chine à l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire Française. Vous êtes spécialiste des relations commerciales avec la Chine. Alors d'abord, que faut-il retenir selon vous du sommet qui a eu lieu la nuit dernière entre Xi Jinping et Joe Biden, en particulier sur cette question des relations économiques et commerciales?
Alors globalement, c'est un sommet qui a duré 3h30, hein, il faut le noter. Donc c'était vraiment l'occasion d'aborder les sujets en profondeur. Et en fait, au niveau économique et commercial, il y a eu par exemple un rappel de Joe Biden des engagements pris par la Chine lors de la signature de l'accord de phase 1, dont on parlera un petit peu plus tard. Et notamment, il a rappelé le fait que la Chine s'était engagée à importer plus de produits américains dans le but de limiter le déficit commercial qui existe entre les États-Unis et la Chine. Alors le déficit commercial, en fait, c'est quand un État vend beaucoup moins de produits qu'il n'en achète à un autre État. Et en fait, les Américains, sous Trump, estimaient que le déficit commercial avec la Chine était beaucoup trop important. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y avait eu cette signature.
Et on va revenir effectivement dans un instant sur cet accord. Mais d'abord, je voudrais qu'on voit avec vous quels sont aujourd'hui les principaux points de désaccord entre les États-Unis et la Chine sur les questions commerciales.
Alors sur les questions commerciales, la principale que je vois, c'est la question de la surcapacité chinoise, c'est-à-dire que l'industrie chinoise a produit beaucoup plus en fait que les marchés internationaux ne sont capables d'absorber, c'est-à-dire que elle met sur le marché beaucoup trop de produits par rapport à ce qui peut être acheté. Et en fait, ça fait couler les industries locales. Alors je pense par exemple à l'industrie des panneaux solaires. Je pense à la question de l'acier, mais il y a aussi la question des microconducteurs. Enfin, il y a plusieurs questions sur lesquelles la Chine produit trop. Et en fait, ça met à mal des secteurs qui sont très sensible. On pense à l'acier, par exemple, dans l'économie américaine, où ce sont plein de travailleurs précaires. Et quand cette industrie-là est mise, quand la Chine produit trop, en fait, cette industrie-là, aux États-Unis, en pâtit énormément.
Ce phénomène que vous décrivez, Camille Brugier, c'est quelque chose qu'on observait à l'époque où Donald Trump était président aux États-Unis, ou c'est un phénomène qui s'est mis en place avec la crise du Covid-19?
Alors non, pas du tout. C'est pas du tout un phénomène nouveau. En fait, ce qui change, c'est un peu le secteur dans lequel il y a des surcapacités chinoises. Mais c'est vraiment quelque chose qui existe depuis les années 2000.
Alors globalement, les relations commerciales entre Pékin et Washington s'étaient énormément dégradées sous la présidence de Trump. Est-ce que Joe Biden a réussi à faire évoluer les choses depuis son arrivée à la Maison-Blanche? Est-ce que sa politique s'inscrit dans une rupture par rapport à celle de son prédécesseur? Ou est-ce qu'au contraire, il est dans une continuité en matière de politique commerciale vis-à-vis de la Chine?
Alors, Biden est vraiment dans la continuité de Trump, mais avec un style légèrement différent. C'est-à-dire que Trump avait décidé d'aller à l'encontre du droit international commercial pour faire pression sur la Chine. Donc il a clairement enfreint les règles. Et en fait, Joe Biden utilise ça pour négocier de meilleures conditions commercial avec la Chine. C'est-à-dire qu'il garde actuellement la politique de Trump et les sanctions de Trump pour pouvoir obtenir ce qu'il souhaite de la Chine.
Et quelle est la stratégie en face de la Chine, justement la stratégie commerciale de la Chine vis-à-vis des États-Unis et en particulier de ces sanctions que vous mentionnez?
Alors en fait, la Chine est dans une situation très défavorable, hein. C'est-à-dire que on pense souvent que les deux acteurs sont à égalité, mais c'est pas du tout le cas. La Chine est dans une situation très délicate où globalement, elle est obligée d'accepter ce que lui imposent les États-Unis, tout simplement parce que j'en parlais tout à l'heure de la question du déficit commercial. La Chine, en fait, exporte énormément aux États-Unis. Donc, quand les États-Unis posent des sanctions, en fait, sur les imports chinois, elles sanctionnent une grande partie de l'économie chinoise. Étant donné que la Chine n'achète que très peu de biens américains, l'économie américaine est beaucoup moins sensible à ces sanctions. Et donc, la Chine est obligée de plier, quelque part.
Et alors, vous évoquiez tout à l'heure cet accord qui a été négocié par Donald Trump en 2020, accord commercial entre son pays et la Chine. Début octobre, les États-Unis, l'administration Biden a un petit peu clarifié sa position sur cet accord commercial. On va y revenir dans un instant, mais je voudrais d'abord qu'on entende l'ancien président américain Donald Trump et l'actuel président chinois Xi Jinping. C'était en 2020, juste après la signature de cet accord commercial. Écoutez et on commente dans un instant.
Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante, une étape qui n'a jamais été franchie auparavant avec la Chine. Ensemble, nous redressons les torts du passé pour la justice économique, pour la sécurité des travailleurs et des fermiers américains ainsi que de leurs familles.
J'espère que les États-Unis traiteront équitablement les entreprises chinoises et qu'ils soutiendront la collaboration entre les entreprises, les instituts de recherche, les écoles et les universités des deux pays, car cela aidera à construire une confiance mutuelle et la coopération entre nous.
Voilà, c'était Donald Trump en premier, Xi Jinping cité par un haut responsable chinois en deuxième. Camille Brugier, je voudrais qu'on revienne avec vous sur finalement cette question, où est-ce qu'on en est de cet accord? Mais d'abord, expliquez-nous dans quel contexte cet accord commercial entre la Chine et les États-Unis avait été négocié.
Alors en fait, Donald Trump, pendant sa campagne présidentielle, donc ça remonte à 2016, a fait clairement campagne sur le nouvel ennemi chinois, et notamment sur le fait que la Chine volait des emplois aux États-Unis. Et en fait, sa façon de gérer après, ça a été de mettre l'accent sur la question du déficit commercial dont je parlais tout à l'heure. Et donc du coup, pour cela, en fait, il a enfreint les règles du droit international qui sont établies par l'organisme de...
Un organisme qui dépend de l'OMC, je n'ai plus non plus le nom en tête, mais enfin l'idée est là, c'est l'Organisation mondiale du commerce qui régit tout cela.
Tout à fait, donc il est allé à l'encontre de ces règles-là et a commencé à imposer des sanctions sur les biens chinois. Et la Chine, en fait, a mis en place des contre-sanctions et s'est monté à un tel point que l'économie chinoise était vraiment très, très en difficulté. Et à ce moment-là, en fait, les deux parties ont commencé à négocier. Donc ça, c'est le contexte.
Et donc ensuite, effectivement, cet accord est signé. Concrètement, qu'est-ce qu'il prévoyait? Parce que c'était un accord, finalement, si on comprend bien ce que vous dites, pour peut-être apaiser un petit peu la situation et permettre peut-être un retour à la normale sur le plan économique, à la fois pour la Chine et pour les États-Unis. Qu'est-ce qu'il prévoyait concrètement, cet accord?
En fait, cet accord, c'est vraiment un cessez-le-feu. Hein, dans la guerre commerciale. Exactement. Dans le sens où, en fait, la Chine s'est engagée à mettre en place un certain nombre de mesures sur 2 ans. Voilà. Et ces mesures incluent notamment l'achat important de biens américains dans des secteurs qui sont très chers aux États-Unis. Donc on entendait tout à l'heure le président américain parler des fermiers américains. Donc par exemple l'agriculture. Donc il y a l'idée d'achat de biens agricoles, mais également le fait que la Chine doit ouvrir plus son marché financier. Notamment, elle doit arrêter de faire des transferts de technologie forcés lorsque des entreprises américaines arrivent sur sol chinois. Enfin, c'est très important parce qu'en fait, ce sont des demandes des pays occidentaux depuis plus de 20 ans, ce que la Chine a concédé dans cet accord.
Aujourd'hui, les États-Unis et la Chine ont-ils respecté les engagements pris dans cet accord ?
Alors en fait, pour l'instant, on ne peut pas trancher puisque l'accord arrive à échéance à la fin du mois de décembre 2021. Ce qu'on voit, c'est que les engagements américains, en fait, c'est tout simplement de lever les sanctions si jamais la Chine remplit ses engagements. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de l'achat de biens américains, pour l'instant, il est estimé que la Chine est quand même bien en deçà. C'est-à-dire qu'elle a acheté à peu près 3/5 de ce qu'elle avait dit qu'elle achèterait.
Et alors pour l'instant, visiblement, les États-Unis restent quand même dans une dynamique de sanctions possibles contre la Chine. Ça a été évoqué début octobre par l'administration Biden. À quel type de sanctions est-ce qu'on doit s'attendre ? Est-ce que pour vous, c'est simplement des menaces ou est-ce que ce scénario de nouvelles sanctions contre la Chine est crédible ?
Alors c'est tout à fait crédible. Hein. Ce qui est sûr, c'est que avant la guerre commerciale, le taux de taxes à l'import était à peu près de 3% côté américain et 7% à peu près côté chinois. Actuellement, on est à 19% côté américain et à 21% côté chinois. Donc on part déjà d'un niveau qui est extrêmement élevé. Et en fait, étant donné que la Chine n'a pas rempli ses engagements et que Catherine Tai, donc la représentante au commerce américaine, a dit que les discussions avec la Chine allaient commencer à cet accord, il est fort probable en fait que la guerre commerciale reprenne.
Et finalement, la Chine peut pas, elle aussi, appliquer des mesures pour pénaliser, des mesures de rétorsion à son tour contre les États-Unis pour essayer peut-être d'inverser le rapport de force ?
Alors, elle peut. Le problème, c'est qu'elle est très fortement exportatrice, alors qu'elle importe peu de biens américains. Donc, en fait, il est difficile pour elle, quelque part, d'imposer des sanctions au même niveau.
Alors, ce qui est intéressant aussi dans la stratégie américaine depuis que Joe Biden est arrivé au pouvoir, finalement, c'est qu'on se rend compte que les États-Unis ne sont plus vraiment dans un face-à-face frontal Chine contre États-Unis. On est plus finalement dans un ensemble d'alliances occidentales que les États-Unis cherchent à nouer, notamment avec l'Union européenne, pour faire face à l'ennemi économique, au rival économique chinois. Ces rapprochements entre les États-Unis et l'Union européenne, comment est-ce qu'ils se manifestent et est-ce que tout le monde en profite ?
Alors, ce qu'il faut noter, c'est que quand même, les États-Unis et l'Union européenne sont des alliés au niveau militaire, ça c'est sans nul doute. Par contre, ça reste des compétiteurs au niveau commercial et des compétiteurs très importants l'un pour l'autre, puisque globalement, ils ont le même portefeuille d'export, c'est-à-dire qu'ils exportent le même type de biens. Donc, ils sont en concurrence sur les marchés mondiaux. Ça, c'est la nouveauté Biden. La nouveauté Biden, c'est de discuter et de régler les conflits qui existent avec l'Union européenne pour ensuite faire face à la Chine. Donc, il y a ces discussions. Par exemple, Boeing et Airbus, c'est un cas très connu qui avait plus de 17 ans, qui a été réglé là au mois de juillet. Et puis très récemment, là au mois d'octobre, on a réglé l'essentiel du contentieux qui existait entre l'Union européenne et les États-Unis sur l'acier. Et tout ça, en fait, c'est pour aller contre un ennemi commun commercial qui serait la Chine.
Mais est-ce qu'il n'y a pas justement, Camille Brugier, aussi une forme, cette compétition entre la Chine et les États-Unis et plus largement l'Occident, est-ce qu'elle ne s'accompagne pas aussi d'une certaine interdépendance dans certains domaines économiques ? Je ne sais pas, par exemple, l'Occident dépend beaucoup de la Chine pour certains produits, comme par exemple les ordinateurs. Est-ce que ça, ce n'est pas un levier dont la Chine pourrait profiter ?
Alors l'interdépendance en commerce, enfin c'est la base de notre système, hein. Et donc effectivement, globalement, ce qui se passe et la logique, vous avez sûrement entendu parler de ça, c'est la question de découplage. Donc il est de plus en plus question de ça. Donc c'est le découplage, c'est quand on essaye de limiter justement cette interdépendance. Et la Chine a lancé le découplage dans un certain nombre de domaines depuis longtemps en fait. Et là, il est question de ça côté américain. Donc effectivement, en fait, il y a une très forte réflexion autour de est-ce que c'est bien d'être autant interdépendant ?
Alors, je voudrais qu'on écoute un extrait du discours de Xi Jinping, le leader donc chinois. C'était en octobre devant l'Assemblée générale de l'ONU. Alors, on était bien sûr, et on est toujours dans un contexte de montée des tensions entre la puissance américaine et la puissance chinoise. Mais vous allez l'entendre, son ton était plutôt à l'apaisement.
Les différences et les problèmes difficiles à éviter doivent être traités par la voie du dialogue et de la coopération sur la base de l'égalité et du respect mutuel entre les pays. Le succès d'un pays ne signifie pas forcément l'échec de l'autre. Et notre monde est suffisamment grand pour permettre à tous les pays de se développer et de prospérer. Nous devons préconiser le dialogue et l'inclusion de tous et rejeter la confrontation-exclusion. Nous devons construire un nouveau type de relations internationales fondées sur le respect mutuel, l'équité, la justice et la coopération. Chacun y gagne. Élargir les convergences d'intérêts et trouver des terrains d'entente autant que possible.
Voilà les États-Unis et la Chine qui semblent vouloir reprendre, en tout cas qui prônent tous les deux la voie du dialogue. Camille Brugier, quelle chance selon vous ce dialogue a-t-il d'aboutir ? Est-ce que on va rester dans une sorte de statu quo entre les deux puissances, ou est-ce qu'on peut aller vers un apaisement ou au contraire un accroissement des rivalités sur le plan économique ?
Alors je pense que globalement, je vais être assez pessimiste. Pour l'instant, en tout cas, je vois pas vraiment de voie de sortie. Mais la possibilité qui pourrait exister, c'est la réhabilitation, en fait, du système international, du système multilatéral en commerce, qui est aujourd'hui extrêmement mis à mal de par le fait que les États-Unis, en fait, refusent presque d'y participer parce que la Chine, ils estiment que la Chine a des pratiques commerciales trop déloyales, qu'elle ne suit pas les règles, et donc, quelque part, les États-Unis s'estiment légitimes à les enfreindre eux aussi.
Mais alors, c'est-à-dire très concrètement, cette confrontation économique entre la Chine et les États-Unis, quelle allure est-ce qu'elle va prendre dans les prochaines semaines, les prochains mois, selon vous ?
Pour le moment, je pense qu'elle va être au niveau bilatéral. C'est-à-dire qu'effectivement...
Il n'y aura pas d'impact sur d'autres pays
Alors, nous sommes dans un monde mondialisé, hein, donc clairement, il y a un impact sur tous les autres acteurs, et particulièrement, je pense, à un impact sur l'Union européenne, hein, puisque l'Union européenne et les États-Unis exportent le même type de biens, y compris vers la Chine. Quand, dans l'accord de phase 1, par exemple, les États-Unis demandent l'augmentation de l'achat chinois de produits agricoles, c'est clairement au détriment de l'achat chinois de produits agricoles européens. Donc, pour le moment, une unité comme l'Union européenne est clairement, pas en bonne position, en fait, est en train de perdre un match, pas qu'elle jouerait contre la Chine, mais contre les États-Unis.
Et vous l'évoquiez pendant cette émission, l'accord qui a été négocié, l'accord commercial qui a été négocié par Donald Trump avec la Chine en 2020 arrive à échéance à la fin de cette année 2021. Est-ce que de nouvelles négociations vont être organisées ?
Alors, pour l'instant, Catherine Tai, la représentante au commerce américaine, a dit qu'elle allait entamer des, je cite, « conversations franches » avec son homologue, qui s'appelle Liu He. Et globalement, en fait, elle n'a pas parlé d'accord de phase 2, puisque l'accord de phase 1 suppose une suite. En fait, une fois les engagements chinois remplis, les sanctions abaissées, une deuxième période de négociation entre la Chine et les États-Unis qui amènerait à un accord de phase 2. Et c'est la Catherine Tai, donc la représentante au commerce américaine, n'a pas parlé de ce type d'accord.
Donc pour l'instant, il n'en est pas question. Merci beaucoup Camille Brugier d'avoir été en direct avec nous. C'était le décryptage du jour. Je rappelle que vous êtes chercheuse Chine à l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire à Paris. Dans quelques instants, dans une minute exactement, vous retrouvez Romain Ouzoui à la présentation du débat du jour. Excellente soirée à tous sur RFI.
Pour nous écrire, RFI 80 rue Camille Desmoulins, 92 130, Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr. RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android.
Priorité santé.